France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
La dénatalité, nous en avons parlé ici même il n'y a pas si longtemps, c'est pas comme si on ne l'avait pas vu venir. C'est aussi devenu un lieu commun de le dire. Les baby-boomers nés après la guerre sont désormais des papy-boomers. Est-ce que cela a des conséquences économiques et sociales? Ben évidemment. Est-ce qu'on en est qu'au début? Évidemment aussi. Parce que c'est eux, les papy-boomers, qui sont les prescripteurs de nos politiques publiques. On met quand même un point d'interrogation à cette phrase. Est-ce que c'est eux qui donnent le la d'une consommation en forme ou en berne? Est-ce que ce sont les vieux qui mènent le monde? Notre base de départ, c'est la dernière étude de l'observatoire CTLM qui a fait cette enquête il y a déjà 10 ans. C'était avant le Covid, c'était l'époque où on voyait venir la silver economy, comme on disait à l'époque. L'étude de cette année confirme et même accentue le poids d'une génération qui occupe une place centrale. Les plus de 50 ans et au-delà dépensent-ils leur argent? Ou sont-ils plus frileux face à une inflation qui fait peur? Que dit leur pouvoir d'achat? Ils poussent vers l'augmentation des dépenses de santé, logiquement. Les retraites sont un pan principal de l'économie. Est-ce que ça veut dire que c'est leur bien-être au plus vieux, l'enjeu national majeur qui se retrouve ensuite dans les programmes politiques parce que les plus vieux votent plus que les jeunes, bien plus que les jeunes. Ils représentent même la majorité des gens en âge de voter. Et c'est aussi ça qui pèse sur la politique et sur les politiques. Est-ce qu'on fait des choix? Serons-nous amenés à faire des choix qui privilégient la santé, par exemple, à l'éducation, à cause de notre pyramide des âges? Vous avez tous noté la frilosité des gouvernements à toucher aux retraités. Est-ce que ça veut dire que cette génération fait aussi la pluie et le beau temps politique? Et cette année électorale pour les municipales, préélectorales pour les présidentielles, en ces années-là, ça vaut le coup de poser la question. C'est le téléphone sonne. Les amis, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Florence, vous êtes la première et vous êtes la bienvenue. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Alors, donc les vieux font la loi, donc point d'exclamation. Donc moi, je mettrais plutôt un point d'interrogation.
Vous avez le droit, vous avez le droit. On a fait exprès, ça faisait réagir, ça marche bien. On vous écoute, Florence.
Voilà. Le point d'interrogation est pour nous, donc voilà. Consommation, élection, société. Alors, consommation, alors, certains vieux, oui, ceux qui ont les moyens, ils ne les ont pas tous, hein, de certaines catégories socio-professionnelles. Les femmes retraitées aussi ont beaucoup moins d'argent que les hommes retraités, ça suit les salaires, c'est strictement la même chose. Les élections, oui, sans doute, parce qu'ils sont dans le respect des institutions, peut-être plus que les jeunes générations. Après, le vote, sur le plan intérieur, ça a des effets, mais sur le plan international, le poids, j'en doute, parce que c'est quand même l'économie qui commande. Voilà. Et puis, sinon, je pensais à quoi? Oui, au numérique. Alors, le numérique, le numérique, ça dépend pour qui? Des vieux, pas trop vieux, alors, peut-être, hein?
Ben justement, on verra bien. Peut-être pas, en fait. On posera la question, Florence, mais c'est un pan intéressant parce que le numérique, c'est aussi une économie. Et c'est pour ça que ça compte beaucoup. Je vous remercie pour cette entrée en matière. On va poser la question directement, d'ailleurs. Est-ce que les vieux font la loi avec un point d'interrogation ou un point d'exclamation? Avec Flavien Novi qui est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste et directeur de l'Observatoire CTLM. Et c'est à vous qu'on doit cette étude qui sert donc de base à ce téléphone sonne et qui s'appelle Choc démographique en Europe, parce que nous ne sommes pas les seuls concernés, quand la consommation change d'âge. Et bonjour aussi Hakim Alkaroui.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes consultant et essayiste. Vous avez écrit notamment La lutte des âges, comment les retraités ont pris le pouvoir. C'était chez Flammarion en 2013 avec une réédition ensuite, mais je suis sûre que ça vaut le coup de se pencher sur votre étude. Maintenant encore, je vais vous poser la question à tous les deux. Les vieux font la loi, on a fait exprès évidemment de donner ce titre-là. Est-ce que vous y mettez un point d'interrogation ou d'exclamation, Flavien Novi?
En tout cas, leur poids dans la consommation, je vais rester sur la partie consommation, mais en tout cas, le poids dans la consommation est un point important parce qu'il y a un effet démographique qui est majeur. C'est vrai que la dénatalité, vous l'avez dit, s'accélère, que la part des plus de 65 ans va passer à peu près à 20 millions d'individus d'ici 2050 et que quand on regarde la structure des dépenses de consommation, on voit bien que les plus de 65 ans ne consomment pas comme les autres. C'est une structure complètement différente et on peut effectivement penser qu'au cours des prochaines années, au cours des prochaines décennies, ce fait démographique va profondément changer changer la donne en matière de consommation des ménages en France, en Europe. Je rappelle quand même que la consommation des ménages, c'est le moteur numéro un des économies européennes, donc c'est pas un petit sujet, et ça s'accélère en quelque sorte, pas forcément pour le pire, hein, mais c'est simplement que la consommation se transforme.
Mais alors justement, pour le pire ou pas, on rentrera évidemment dans le détail, mais est-ce qu'on se dit que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle qu'il transforme la consommation? Parce que tant qu'on consomme, comme vous l'avez dit, c'est le moteur de l'économie, tant qu'on consomme, après tout, pourquoi pas? Est-ce qu'ils sont plus frileux dans leur consommation, les plus de 65 ans ou pas?
Ben, non, pas forcément, simplement, ils n'ont pas les mêmes besoins. Hein, quand on s'installe dans la vie, quand il y a un bébé qui arrive, on a besoin d'une pièce de plus, on a besoin d'ameublement, on a besoin de s'équiper. Et c'est vrai que quand on a 65 ans, qu'on n'a pas besoin de déménager, qu'on a déjà tous les meubles à la maison, c'est une consommation qui est complètement différente. Pour répondre concrètement à votre question, en réalité, il y aura des gagnants, des secteurs qui seront gagnants de cette évolution. Je pense notamment aux services, au tourisme, bien-être, santé. Et puis il y aura d'autres secteurs, effectivement, qui seront plus en difficulté, notamment tout ce qui va être équipement en biens, parce que les seniors, manifestement, enfin clairement, achètent moins de choses, moins de biens durables que les jeunes.
Et ce qui va nous intéresser au fil de cette émission, c'est justement si ça pèse aussi sur les politiques, quand la consommation change, est-ce que ça veut dire qu'il y a des choix politiques qui sont différents? Je vous pose quand même la même question à vous, Hakim El Karoui, est-ce que les vieux font la loi? On vous y mettait un point d'interrogation ou un point d'exclamation? Ou deux?
Alors, plutôt un point d'exclamation, peut-être pas toutes les lois, mais notamment la loi budgétaire. On a passé là beaucoup de temps à discuter au Parlement, enfin les députés, les sénateurs, pour essayer de se donner un budget. Il y a un sujet, enfin un thème ou un âge sur lequel tout le monde était d'accord, c'était il ne faut pas toucher aux retraités. Il a été question à un moment de geler l'augmentation des pensions, de supprimer ou de moduler ce truc un peu étrange qui s'appelle l'abattement pour faits professionnels des retraités. Vous savez que les retraités déduisent 10% de leurs revenus au titre des frais professionnels, frais professionnels qu'ils n'ont pas. Et bien finalement, tout ça, rien de cela n'est passé. Et à peu près tout le monde était d'accord, à droite et à gauche, pour éviter cela. Donc de ce point de vue-là, oui, franchement, ils font la loi. Après, ils ont une caractéristique en matière de consommation. C'est moins d'ailleurs ce qu'ils consomment que ce qu'ils ne consomment pas. Le taux d'épargne est beaucoup plus élevé, notamment au-delà de 70 ans, mais pas 90 ans, vraiment 70 ans. On atteint 25%. Et ça montre qu'il y a un déséquilibre et qu'en fait, pardon de le dire de façon un peu brutale, mais le niveau des pensions aujourd'hui en France est trop élevé. Il est trop élevé par rapport au niveau des revenus généraux, il est trop élevé par rapport au niveau des pensions dans les pays européens et tout ça pèse sur le travail, l'accès au travail, au logement, etc.
Nouveau, les pensions trop élevées, on va recevoir une volée de mails.
Oui, je suis désolé.
Bien d'avance, Hakim El Karoui. Mais est-ce que ça veut dire, dans votre étude, Flavien Neuvy, que au fond, quand on thésaurise, ça veut dire qu'on a peur aussi de l'inflation, typiquement. Est-ce que quand on a plus peur de l'inflation, les politiques publiques sont influencées là-dessus? Ça veut dire qu'on a plus peur de l'inflation que du chômage? Et donc là où on parlait d'élections, par exemple, on pousse vers l'inflation plus que par le chômage. Ça donne de vraies orientations pour l'avenir, quand même.
Oui, alors le chômage n'est plus une préoccupation principale aujourd'hui, en France, en Europe, puisqu'en zone euro, on a un taux de chômage autour de 6%. En France, il est un peu remonté. Mais globalement, c'est plus le sujet principal. Dans l'étude qu'on a présentée aujourd'hui, on voit que l'inflation reste un sujet de préoccupation, alors même qu'en France, notamment, on a une inflation qui est, les derniers chiffres, c'est 0,4%.
Oui, qui est maîtrisée depuis.
Oui, absolument. Et pour autant, on a le sentiment que la crise inflationniste a laissé des traces dans l'esprit des gens, et en particulier chez les seniors. Et pour répondre à la question de l'épargne, effectivement, il y a une surépargne qui s'accumule. On a aujourd'hui un taux d'épargne en moyenne, et c'est encore plus vrai chez les seniors, qui est en gros 4% supérieur à ce qu'était ce niveau d'épargne avant la crise Covid. Et quand on regarde un peu dans le détail pourquoi les seniors épargnent, notamment les jeunes retraités, c'est qu'il y a la question du grand âge et de la dépendance et du financement du grand âge. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les seniors qui ont 60 ans, qui partent à la retraite ou qui vont partir à la retraite, souvent encore au moins un de leurs parents vivants qui est en situation de dépendance, ça coûte extrêmement cher et ils anticipent aussi leur propre avenir en quelque sorte, si je puis le dire comme ça. Et c'est un sujet qui est majeur parce que ça les préoccupe beaucoup.
Mais est-ce que ça veut dire, on va retourner au standard dans un instant, mais est-ce que ça veut dire, Hakim El Karoui, que vous qui êtes plutôt sur les volets politiques, qu'on privilégie au fond des politiques qui sont plus à court terme, parce que quand on parle d'une population plus vieillissante, on a des objectifs logiquement qui sont à court terme, alors qu'un objectif lié à l'éducation nationale ou à des choses comme ça sont évidemment à beaucoup plus long terme, puisqu'ils touchent à des populations qui aujourd'hui ont 20 ans ou pas encore 20 ans. Donc est-ce que quand même, ça on le voit dans la conduite des politiques publiques?
Ah, on le voit très bien, c'est clairement documenté. Il y a même un exemple, on a trouvé dans la comptabilité publique un élément en fait qui n'était pas du du tout dans le débat, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait en gros 10% du budget de l'éducation nationale qui servait à payer les retraites des enseignants. Donc en fait, il faut enlever 10% du budget. Et quand on regarde l'évolution du budget de l'investissement dans l'avenir, on va dire, et l'évolution de des pensions ou des dépenses de santé, ben on voit que les dépenses de santé évoluent 3 ou 4 fois plus vite que le reste. C'est pas anormal dans une société qui vieillit. Le sujet, c'est vraiment un sujet d'équilibre, et encore plus avec les pensions, puisque les pensions sont financées par le travail, comme par le travail de ceux qui travaillent aujourd'hui, comme ceux qui ont des pensions aujourd'hui, ont financé les pensions de leurs parents. Et donc, là, il y a un vrai sujet d'équilibre entre les générations. Et aujourd'hui, on n'y est plus du tout, et on n'y est plus du tout pour des raisons politiques, parce que précisément, les boomers, les baby-boomers, votent, et votent beaucoup plus, et ont une influence au-delà de leur vote dans la vie politique.
Voilà les mails dont je vous parlais, je vous donne Valéria, hein. J'espère bien faire la loi maintenant que j'ai 67 ans, mais mes aînés hommes qui m'ont... alors attendez, non, c'est pas ce mail que je voulais lire, en tout cas, c'est pas celui-là que je cherchais tout à l'heure. Enfin bref, c'est quelqu'un qui disait, moi j'aimerais bien faire la loi, mais avec la retraite qui est la mienne, je ne peux pas faire la loi, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc comment on catégorise les vieux, en fait. Ça commence où? Qu'est-ce qu'on dit dans une étude comme la vôtre, par exemple? Est-ce que j'ai eu peur à un moment d'être dedans?
C'est une vraie question. Il n'y a pas de définition académique pure, aucune, par tout le monde. C'est un peu comme les classes moyennes, d'ailleurs. On y met un peu ce qu'on veut derrière. Nous, ce qu'on a retenu dans l'étude, c'est plus de 60 ans. Après, on peut se considérer senior soi-même à un âge plus élevé. On peut considérer qu'on est senior à 65, 70 ans. Donc, c'est vraiment une question assez subjective. Je veux juste revenir 2 secondes sur l'intergénérationnel, parce que dans notre étude, moi, il y a un chiffre qui m'a beaucoup frappé. On a posé la question de savoir si les relations entre les générations étaient tendues ou pas tendues, en fait. On l'a posé dans tous les pays d'Europe. Et en France, quand on regarde les réponses des moins de 30 ans, vous en avez quasiment 1 sur 2 qui dit que c'est des relations qui sont tendues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une partie des jeunes considèrent effectivement qu'ils ont le sentiment d'être sacrifiés, que leur avenir est sacrifié, si je puis dire, pour des raisons financières et budgétaires. C'est un sujet qu'il faut surveiller parce qu'effectivement, la bonne cohabitation entre les générations, c'est quand même très important dans un pays comme le nôtre.
C'est un sujet qu'on avait abordé, souvenez-vous, pendant le Covid, où on s'est demandé à un moment si les jeunes payaient, et au sens de leur vie, en fait, et de leur ennui, leurs études, etc., pour sauver la vie des vieux. Il y a eu ça un moment, effectivement, absolument, qui est venu dans la conversation. On ne peut pas faire comme si ça n'avait pas existé. Voici Gabriel qui est avec nous. Bonsoir, Gabriel.
Bonsoir.
On vous écoute, Gabriel.
Merci de prendre mon appel, et je suis très intéressé par les réflexions de vos intervenants. J'ai moi-même 68 ans, donc je suis dans la catégorie des boomers, et moi, il y a un chiffre qui m'interpelle, c'est le fait que les plus de 65 ans dans notre société sont plus nombreux que les moins de 20. Donc ça, on a ce premier chiffre qui est implacable. Et deuxième chiffre, moi je suis aussi très intéressé par les problèmes de santé. Un moins de 20 ans coûte en moyenne par an 1000 euros en frais de santé. À plus de 80 ans, on est à 8000 euros de frais de santé par an. Donc on va se heurter à un mur financier, et la question, c'est qui va payer, puisque on a de moins en moins de jeunes pour prendre en charge. Moi, quand j'étais jeune, on était 4-5 actifs pour un retraité.
Est-ce qu'on parle
de... ce problème-là va être énorme dans les 10-20 ans qui viennent.
Merci Gabriel. Est-ce qu'on parle de mur, Flavien Neuvy, vous parlez de choc démographique qui amène effectivement à des changements qui vont être des changements structurels. Ça s'appelle un mur, comme dit Gabriel.
En tout cas, ce sont des défis qui sont majeurs, et aujourd'hui, on n'a pas la réponse adéquate, si je puis dire, par rapport à ce défi. Ce qui est sûr, c'est qu'il est clairement identifié par les populations européennes. C'est vrai en France, mais c'est vrai en Europe. Le sujet de préoccupation numéro un par rapport au vieillissement de la population, c'est la question du financement du système de retraite et du système de santé. Dans chaque pays, c'est la même réponse qui arrive. Et donc, effectivement, il y a cette question-là, mais on est dans un pays où est démocratique, évidemment, et donc il y a des élections en permanence. Et c'est vrai que penser le temps long, imaginer la France de 2050 et du financement du système de santé, du système de retraite à horizon 2040-2050, ça paraît tellement loin qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui en parle.
Mais est-ce que c'est un refus d'anticiper, ou est-ce que c'est une crainte d'anticiper, ou est-ce qu'on aurait dû mieux anticiper et on ne l'a pas fait? Est-ce qu'on l'a parfaitement bien fait, mais ce sont des chiffres qu'on préfère ne pas voir parce que ça peut mettre effectivement en émoi les politiques publiques? Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça, Hakim El-Khaoui?
Que les politiques, les responsables politiques font de la politique, ils font de la politique à l'horizon des élections. la durée, enfin l'écart entre des élections en général, c'est 5 ans, 6 ans. Donc c'est ça leur horizon. Et là, on doit penser à 20 ans, à 30 ans. Mais maintenant, il va falloir qu'on pense à un horizon de plus en plus court, notamment parce que on n'arrive plus à financer tout ça. S'il y a eu autant de problèmes au Parlement pour trouver un budget, ben c'est tout simplement que l'équation ne fonctionne plus. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas baisser notamment les pensions, et puis il y a la question de la santé qui s'envole, pour la raison que vous évoquiez, Fabien. On est en 2025, c'est les 80 ans des premiers baby-boomers. J'avais écrit mon livre en 2013, et j'avais dit en 2025, c'est le moment où le problème va commencer à se poser, parce qu'il y a les dépenses de retraite, et puis il y a les dépenses de santé qui vont exploser. Donc c'est ça, c'est ce à quoi on est confronté. On a un déficit de 120-130 milliards d'euros par an. Il va falloir réduire la dépense de l'État, la dépense publique, pas de l'État, la dépense publique, d'environ 100 milliards d'euros par an. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire aller chercher 3-4 000 euros dans la poche des Français. Et si le niveau d'épargne est si élevé, c'est que je pense que les gens le savent, en fait. Les politiques ne leur disent pas, parce qu'évidemment, c'est pas rentable, c'est pas rentable sur le plan électoral, mais ils savent qu'il va y avoir un choc. Et le choc, d'une certaine manière, on sait presque quand il va avoir lieu. Il va avoir lieu après les prochaines élections, parce qu'à ce stade, ceux qui nous prêtent de l'argent, c'est-à-dire les marchés financiers, préfèrent la stabilité politique au désordre. Donc, ils ont acheté, d'une certaine manière, ce budget qui ne fait quasiment aucune économie, qui fait juste des augmentations d'impôts. Par contre, le prochain pouvoir, il va être attendu au tournant. Et ça se matérialisera d'une façon simple. Les taux d'intérêt vont monter parce qu'on va considérer qu'il y a plus de risques. Et il y a un moment, il va se passer ce qui s'est passé en Grèce, ce qui s'est passé en Italie, ce qui s'est passé au Portugal et en Espagne. C'est-à-dire que on n'arrivera plus à emprunter à un coût suffisamment important. Et donc, la Banque Centrale Européenne va arriver et va nous dire, non pas de faire doucement ce qu'il faut faire depuis 10 ans, pardon, je suis un peu long, c'est-à-dire de baisser progressivement le taux de remplacement des pensions, elle va le faire brutalement. Donc, quand je dis que les pensions sont trop élevées, bien sûr qu'il y a des petites pensions, mais ça veut dire que financièrement, on n'y arrive pas et qu'elles vont baisser brutalement d'ici 2 ou 3 ans.
Avant de retrouver Jean-Claude qui nous attend au standard, Flavien Neuvy, là, on est dans ce que ça coûte. Maintenant, et c'est ce qui se voit aussi dans votre étude quand même, les plus vieux, ça consomme. Parce que, alors certains qui sont déjà en train de nous écrire pensent que leurs pensions sont trop basses, dont acte, mais enfin sinon il y a effectivement un pouvoir d'achat, il y a en général un immobilier qui est déjà acheté, donc ce qui permet aussi d'avoir un capital qui est un peu plus important. Alors certes, peut-être dans des domaines qui sont très précis, vous avez parlé du tourisme, vous avez parlé des services, mais est-ce qu'il y a aussi, est-ce qu'on la voit, cette bascule-là de secteurs de l'économie qui booment précisément parce que ce sont les secteurs économiques qui sont en première ligne dans cette économie-là.
Oui, on a une tendance de fond qui est que la consommation se transforme. La consommation des ménages, vous avez la consommation en biens durables, des produits qu'on achète, vous achetez une table, une voiture, quelque chose qui est fabriqué, vous avez la consommation en service. Quand on regarde l'évolution des deux consommations, si je puis dire, vous avez une consommation en biens qui n'avance pas, c'est-à-dire qu'on n'est même pas au niveau de 2019, et une consommation en service qui augmente fortement. Elle est portée, cette consommation des services, par le plaisir de consommer. Quand j'achète un service, quand je vais dans un parc d'attractions, si je fais un voyage, si je vais au cinéma, je me fais plaisir. Mais c'est du service. Et le vieillissement de la population va accélérer cette tendance qu'on observe maintenant depuis plusieurs années. Et je rajoute un point sur les seniors. On parlait tout à l'heure de l'épargne des seniors. Dans notre étude, on montre qu'on a à peu près 70% des seniors qui déclarent aider leurs enfants ou leurs petits-enfants financièrement. Il y a une solidarité.
Beaucoup de questions autour de ça aussi.
Ils aident, ils sont très solidaires parce qu'ils voient bien que leurs petits-enfants, notamment, ont du mal à rentrer, notamment sur le marché de l'immobilier. C'est très difficile de devenir propriétaire, c'est difficile de se loger. Donc il y a une solidarité qui joue. Et ça, c'est un élément qu'il faut mettre en avant. Et puis, sans parler de tout ce qu'ils font aussi pour le secteur associatif, parce que bien souvent, ils sont bénévoles dans le secteur associatif.
Un sur deux, d'ailleurs. C'est ce que j'ai eu dans votre étude. C'est beaucoup.
Oui, c'est beaucoup. Ils contribuent beaucoup à la vie en société.
Et beaucoup de messages, et là, j'en ai un sous les yeux, qui dit mais il faut débrider les dons que les grands-parents peuvent faire à la jeune génération, et ce qui permettra de rééquilibrer.
C'est pas aux enfants, c'est aux petits-enfants.
Aux petits-enfants,
les enfants, l'héritage, s'il arrive quand vous avez 60 ans, si vous voulez, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Vous en avez moins besoin que quand vous avez 30 ans.
Allez, on est en train de parler de la vieille génération et des changements économiques et politiques que cela engendre avec Karim El-Karoui, qui est consultant et essayiste, avec Flavien Neuvy, qui est économiste et directeur de l'Observatoire CTLM.
France Inter, le 18-20, 01 45 24 7000.
Et avec Jean-Claude aussi qui est là. Bonsoir Jean-Claude.
Oui, bonsoir. Et merci à vous de prendre mon appel. Bon voilà, pour tirer un trait d'humour, je dirais que c'est pas très prudent pour France Inter de faire une émission qui tire à boulet rouge sur les personnes âgées et les retraités, parce que c'est une partie importante de son auditorat.
J'ai pas le droit de dire qu'on, voilà, qu'on en a parlé au bureau cet après-midi, Jean-Claude, et vous avez bien raison.
Voilà, si vous voulez, au fil du temps, on dirait qu'il se développe une sorte de litanie qui ressemble à un racisme anti-vieux, donc il faudrait par exemple qu'on nous empêche de conduire, passer un certain âge, bon, sans, et peut-être, mais à ce moment-là, il faut que toute la réflexion s'engage sur les moyens engagés, la solidarité avec les jeunes générations, ben oui, nous, on le ressent pleinement, etc., le bénévolat, il y a plein de cases qu'on coche, voilà, et il y a des choses qu'on n'évoque jamais, par exemple, on parle de ce souci, des retraites, ce souci, mais juste avant, ce que vous avez fait, c'était chez Hyundai, là, ils vont mettre des robots, est-ce que les robots cotisent pour les retraites? Alors, un exemple français connu, ce sont les agriculteurs qui ont tellement augmenté leur productivité, je sais plus si un agriculteur nourrit 50 ou 100 personnes, donc résultat, ils n'ont pas de retraite. Vous voyez la retraite agricole, c'est vraiment rien du tout, quoi. Donc, voilà, cette réflexion est engagée, mais qu'on ne rentre pas dans un conflit de génération. Voilà, s'il faut développer un racisme, peut-être un racisme anti-riche, enfin, en tout cas, ceux qui refusent de payer des impôts, ce serait tout simplement un esprit républicain, voilà.
Voilà, bah écoutez, pour aller dans votre sens...
Il y a une réflexion engagée pour ne pas tomber là-dedans. Surtout que très souvent, c'est ça, on vous met de côté, on vous écoute pas. Voilà, donc, bon, peut-être prendre en conscience le fait que dans les EHPAD, les gens mangent 1 ou 2 euros par jour, le repas, pardon. Et avant de dire qu'il se gare, voilà.
Alors, merci. Merci à vous, Jean-Claude. Et alors, j'ai entendu que vous aviez dit dans un sourire, on pourrait plutôt parler du racisme anti-riche. J'ai un message là sur WhatsApp qui dit je glisserai bien le gros mot de la taxe Zucman, mais j'ai peur de gâcher l'ambiance. Vous voyez que bon, nos auditeurs voient aussi les choses dans ce sens-là, puis surtout avec une pointe d'humour également. La crainte ou le risque du... Alors, il y va fort, Jean-Claude, en parlant de racisme anti-vieux. Mais enfin, quand même, on l'a un tout petit peu évoqué, Flavien Novi. Il ne faut pas creuser d'écart et d'animosité entre deux générations.
Oui, c'est très important. Hein. C'est un sujet très important pour la cohésion nationale, tout simplement. On ne peut pas avoir des conflits de générations. Ce n'est pas possible. Et donc, ça nécessite effectivement de trouver le bon équilibre entre le financement de notre système de protection sociale, notre système de retraite, et effectivement, le fait que les actifs, aujourd'hui, financent ce système-là. Il ne faut pas qu'ils aient le sentiment que leur avenir puisse être sacrifié pour ça. Juste un mot par rapport à ce que vient de dire votre auditeur sur les robots. C'est intéressant parce qu'effectivement, une société qui est plus automatisée, avec plus de robots, on pourrait se poser la question de savoir si finalement ça contribue au financement de nos systèmes de protection sociale. Je donne juste 2 chiffres. Chaque année en France, on a à peu près 750 000 créations de postes nouveaux, soit des départs à la retraite, soit des créations de postes. On a 650 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail. C'est-à-dire que, pour le dire simplement, quand on regarde ce qui se passe, par exemple, dans un pays comme en Allemagne, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Et c'est ce qui nous attend à l'avenir. C'est-à-dire qu'on va avoir des pénuries de main-d'œuvre. Il y a des secteurs où il n'y aura plus de main-d'œuvre, ou en tout cas plus suffisamment de main-d'œuvre. Donc c'est un vrai sujet qui traduit finalement la dénatalité à laquelle on assiste. 100 000 bébés de moins par rapport à 2022 et 200 000 par rapport à il y a 10 ans. C'est un effondrement de la natalité qui est vraiment très spectaculaire.
On a Philippe qui nous demande si le mode de scrutin et le mode de sélection de nos politiques est compatible avec la vision à long terme nécessaire pour piloter notre modèle social dans le temps long. C'est Philippe qui nous dit ça à Kim El Karoui. Et au fond, c'est une manière de nous dire peut-être qu'il faut prendre la politique dans l'autre sens, en fait. Si de fait, effectivement, et ça ce sont vos chiffres, il y a une majorité de vieux qui votent et qui aujourd'hui font l'élection, est-ce qu'il ne faut pas prendre le problème à l'envers, notamment sur le mode de scrutin et le choix de sélection des élus?
Oui, un chiffre pour les auditeurs, aux dernières élections, il y avait probablement 56-57% de plus de 50 ans qui ont voté aux 2 tours de l'élection présidentielle. Donc c'est encore plus important pour les législatives. Et donc ça veut vraiment dire qu'il y a une très large majorité de gens qui sont au-delà de 50 ans, au-delà de 55 ans.
Mais pardon de vous interrompre, parce que j'ai lu chez vous, je trouve que le chiffre est très parlant, ça veut dire que les plus de 50 ans sont 3 fois plus puissants que les moins de 30 ans en termes électoraux. C'est quand même un chiffre qui dit quelque chose.
Oui, puis c'est de plus en plus le cas. Au Japon, il y a eu une réflexion sur le droit de vote double à donner aux familles qui ont des enfants, par exemple. Alors, ça pose un problème démocratique, parce que pourquoi il y aura un vote qui voterait plus?
On a 2 votes si on a des enfants, par
voilà,
exemple.
Voilà. Wow. Mais donc, ça, c'est à l'échelle individuelle. Mais si on raisonne, comme vous venez de le dire, à l'échelle collective, par tranche d'âge, en fait, on voit que des gens de plus de 60 ans ont un droit de vote qui, d'une certaine manière, est 3 fois supérieur à ceux qui ont de moins de 30 ans. Et donc, là, on a une vraie question démocratique. C'est que la démocratie ne définit pas, ne donne pas la voix de l'intérêt général. L'intérêt général, c'est pas de faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire d'accumuler des transferts de richesses, des actifs vers les retraités, de façon trop importante. Je parle pas à l'échelle individuelle. Bien sûr qu'il y a des petites retraites, notamment les pensions de réversion, etc. Et c'est normal que les gens aient de la difficulté à le percevoir. Mais quand on regarde à l'échelle globale, il n'y a aucun doute sur le fait que les pensions en France sont 10% trop élevées. Et ça se voit, on parlait de la solidarité entre les générations, ça se voit directement dans le travail. Le travail coûte trop cher en France. Les charges sociales coûtent trop cher. Tout le monde veut baisser les charges. Tout le monde dit qu'il y a trop de charges. Mais elles servent à quelque chose, les charges. Elles servent d'abord à payer les retraites. Les retraites et ensuite la santé. C'est-à-dire une redistribution des actifs vers les retraités, puisque les deux tiers des charges sociales vont vers les retraités. Et donc, si on baisse les charges sociales, on va augmenter les salaires. C'est ça la discussion, en fait, qu'il faudrait avoir. Est-ce que vous voulez une augmentation de 10% des salaires, ce qui veut dire une baisse de 5 ou 6% des pensions. Et quand on parle des pensions, on parle que des revenus. Il ne faut pas oublier le patrimoine. Le patrimoine s'est considérablement accumulé dans les, du côté des baby-boomers. Et traditionnellement, on était, l'âge à laquelle, auquel on avait le plus de patrimoine, c'était autour de 55-60 ans. Maintenant, c'est 70 ans.
Mais effectivement, et dans la richesse, c'est dans votre étude, ce n'est pas tant le revenu que, effectivement, le patrimoine. C'est évidemment ça qui compte. Enfin, c'est ça qui fait le chiffre, en tout cas. Voilà.
Donc, juste pour finir, il n'y a pas de racisme anti-vieux. Le problème aujourd'hui, en fait, quand on regarde les chiffres, ce serait plutôt un racisme anti-jeune. Donc, il faut évidemment éviter le conflit. Mais pour ça, il faut remettre l'église au milieu du village.
Vous allez pouvoir répondre à ça, Flavien Neuvy, mais j'ai deux ou trois messages qui arrivent dans ce sens-là, puisqu'on parlait de poids électoral. Si on donnait le vote à 16 ans, par exemple, est-ce qu'on rééquilibrerait ce poids électoral ou pas du tout?
Non, quasiment pas. D'abord parce que ça fait un petit nombre d'électeurs en plus. Et puis, comme les jeunes s'abstiennent beaucoup, on peut considérer qu'à 16 ans et 16-17 ans, ils s'abstiendront comme les autres à 18 ans. Donc ça ne changera rien.
Vous vouliez ajouter quelque chose, Flavien Neuvy?
Non, sur le patrimoine, un point très intéressant, c'est que ce qui fait vraiment la différence, et là aussi c'est un problème très important en France, dont je trouve qu'on ne parle pas suffisamment, c'est le poids du logement dans les dépenses des ménages, et en particulier chez les jeunes qui s'installent dans la vie, qui démarrent leur vie professionnelle. Se loger en France est un vrai problème. Et que quand on a fini de payer son crédit immobilier autour de 55 ou 60 ans, d'un seul coup on voit son niveau de vie, si je puis dire, être libéré d'un poids de 30 à 35% de charges, et ça fait toute la différence, même si effectivement il y a beaucoup de retraites qui sont des petites retraites. Si vous avez eu la possibilité d'acquérir votre logement et que si vous avez fini de payer votre emprunt, vous trouvez libéré d'une charge importante. Et aujourd'hui, on le voit bien, les jeunes ne peuvent pas accéder à la propriété au même âge que leurs parents ou que leurs grands-parents. Et ça, en termes de sentiment de déclassement social, c'est très puissant et très négatif.
Voici Paul qui nous attend. Bonsoir Paul.
Bonsoir.
On vous écoute Paul.
Bonsoir, alors moi j'appelle en tant que jeune actif, je travaille dans les Pays de la Loire, à Nantes. Et c'est vrai que je vis de plus en plus mal le fait que la France ait autant de mesures que je considère comme gérontocratiques. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de coupes qui sont faites sur les budgets comme ceux de l'apprentissage et beaucoup de charges qui sont prélevées sur les revenus des actifs. Tandis que dans le budget récemment, on a gelé la baisse des pensions. Aussi, on peut voir qu'au niveau du logement pour les jeunes, c'est plus compliqué et c'est aussi un problème d'âge parce que les seniors, ils occupent des logements qui sont grands et ils sont peu nombreux à les occuper. Donc c'est aussi un problème pour la démographie et le réarmement que souhaitait Macron. Et c'est quelque chose que moi personnellement, je commence à avoir du ressenti envers cette génération, dans le sens où on a l'impression un peu de payer seul les conséquences de cette situation qui est difficile, quoi.
Merci beaucoup pour votre message, Paul. Ressentiment de cette génération, Flavien Neuvy. Il faut faire attention où on met les pieds dans les années qui viennent, en fait, dans les 20 ans qui viennent, pour éviter de créer des situations qui deviennent complexes. Pour des gens comme Paul,
oui,
à juste titre.
Vraiment, c'est un témoignage qui illustre parfaitement ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire une montée progressive quand même des tensions intergénérationnelles. Il faut y faire extrêmement attention. Ce qui me frappe beaucoup, parce que dans l'étude de 2016, au fond, on avait déjà abordé ce sujet de conflit potentiel entre les générations. On ne le ressentait pas du tout de la même façon. Ouais. C'est-à-dire qu'en 10 ans, on a le sentiment qu'il s'est passé quelque chose qui a tendu finalement cette relation.
Mais c'est le Covid qui est
passé par là, non ? Alors, il y a le Covid, mais il y a quand même l'effet de dénatalité qui est incroyable, en fait, quand même. Il faut rappeler que l'année dernière, on a eu plus de décès que de naissances. C'est quand même juste incroyable. Donc, c'est vrai qu'il faut être vigilant. Et encore une fois qu'on a dit ça, on n'a pas résolu le problème. Mais c'est un sujet qui concerne l'ensemble de la classe politique, si je puis dire.
Hakim El-Karoui, notre auditeur, a parlé de méthode gérontocratique. Et moi, je me suis amusée, en fait, pour préparer cette émission, à chercher ce que c'était que la gérontocratie. Et la définition dit ceci: système politique dominé par les classes âgées qui exercent une influence politique supérieure aux autres. Dites donc. Est-ce qu'on est à deux doigts, là? Faites-nous peur.
Bon, on est en plein dedans.
Et ah oui, on est dans une... Non mais sérieusement, vous nous dites, nous sommes dans une gérontocratie ou pas?
Ah bah, quand on regarde le partage des richesses entre les générations et les choix politiques, on est en plein dans une gérontocratie. Mais c'est évitable. Parce que par exemple, quand on regarde nos voisins en Europe, bah, en fait, la plupart en sont sortis, ils étaient tentés. Les Allemands sont plus âgés que nous en termes de structure par âge. Bah, eux, il y a 20 ans, ils ont décidé qu'il fallait valoriser le travail. Vous savez, valoriser le travail, ça plaît aux hommes politiques, mais ils ne vont pas au bout. Valoriser le travail, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils ont baissé progressivement les pensions. Ils ont aussi, c'est vrai, stabilisé le niveau des salaires. Et ils ont gagné énormément en compétitivité. Il y a eu 20 ans de miracle économique allemand. Ce que ça veut dire, c'est qu'à un moment, il faut qu'on ait ce débat démographique. Et il faut qu'on l'ait de façon relativement apaisée. Parce que si on ne l'a pas, bah, en fait, d'autres vont nous obliger à l'avoir. Et les autres... Bah, c'est la Banque Centrale Européenne, c'est les marchés financiers qui vont nous dire bah, en fait, votre modèle, il ne marche plus. Et en fait, je le redis, hein, il n'y a aucun doute sur le fait que ça ne marche plus. Et donc, ça va avoir lieu, la correction va avoir lieu. Donc, soit elle est faite collectivement via un débat démocratique, et ça devrait être le sujet de l'élection présidentielle. Et on a vu qu'il y avait un débat sur les retraites, la durée de cotisation, l'âge de départ à la retraite, mais ça ne peut pas être le seul paramètre. L'autre paramètre, c'est le niveau des pensions. Donc soit ça a lieu de façon démocratique, soit ça aura lieu de façon non démocratique, ça viendra de l'extérieur. Et moi, mon hypothèse, c'est que la classe politique aujourd'hui, qui est faible, un système complètement imité, en fait, elle attend la contrainte extérieure pour dire c'est pas nous, c'est eux, c'est le sale boulot, c'est l'Europe, etc. Et ça, c'est franchement malheureux qu'on arrive à cette situation.
Il y a beaucoup du coup de vieux. On a Marie-Pierre qui nous dit: j'écoute avec intérêt votre émission sur les vieux, en y mettant des guillemets, un peu agacée par certains bashing anti-vieux, nous dit-elle. Depuis que je suis retraitée, j'ai découvert avec intérêt la participation très active des vieux aux associations, dont beaucoup pallient aux insuffisances de l'État, particulièrement dans le domaine social, et tout cela bénévolement. Et elle a raison, Flavien Neuvy. S'il n'y avait pas de bénévolat en France, et donc souvent les plus de 65 ans, il y a beaucoup de choses qui se seraient cassées la figure.
Ah, mais le secteur associatif en France est fondamental.
Sans eux,
et
il
les retraités, les seniors jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement des associations en tant que bénévoles, mais en tant que président, secrétaire, etc. Et si on voulait imaginer une seconde ce que pèse réellement le secteur associatif en France, il faudrait imaginer qu'ils se mettent tous en grève du bénévolat pendant une semaine ou 15 jours, bah, il n'y aurait plus de clubs sportifs, il n'y aurait plus d'associations culturelles, le pays ne fonctionnerait plus en fait. Et c'est vrai que le rôle, alors on parle beaucoup d'argent et c'est logique parce que les enjeux financiers sont considérables, on en a parlé, mais le rôle quand même des seniors, il va bien au-delà de ça. C'est-à-dire que c'est un rôle qui est hyper important. Quand on parle d'associations sportives, par exemple, eh ben on parle de jeunes qui vont faire du sport, on parle de santé publique, on parle de bien-être. Et eux-mêmes, d'ailleurs, les seniors font énormément de sport maintenant pour leur bien-être personnel.
Voici ce que dit Nathalie. Voilà qui me paraît complètement anormal. C'est de penser qu'actuellement, c'est ma mère de 82 ans, avec son revenu confortable de retraite et l'éducation nationale, qui peut aider ma sœur et ma nièce, qui travaillent toutes les deux, mais gagnent moins bien leur vie en travaillant que quelqu'un qui est retraité. Et ça, pour moi, c'est donc anormal et il faut l'inverser.
Oui, bah c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une solidarité entre les générations, parents-enfants, grands-parents, petits-enfants. Et derrière ça, cette question-là, il y a la question de l'héritage aussi, qui est quand même en toile de fond, dont on parle beaucoup dans le débat public, la taxation.
Et qui revient tout le temps, en effet, bien sûr. Ouais.
Alors, si vous êtes candidat à l'élection présidentielle, vraiment ne proposez pas d'augmenter la taxation de l'héritage, puisque 82% des Français, ils sont très hostiles, ils considèrent que la taxation de l'héritage est déjà trop élevée, donc on voit que c'est un sujet très sensible. Pourtant, on va assister à un transfert de richesse comme on n'en a jamais connu, d'une génération à l'autre, au cours des 10 prochaines années, avec justement ce patrimoine qui sera transmis plutôt à des gens qui auront 60 ou 65 ans, plutôt que 30.
Et Isabelle est avec nous. Isabelle, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Isabelle.
Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, quand on est retraité, on a un revenu qui est beaucoup plus important que quand on débute sa carrière de fonctionnaire. Et moi, j'ai eu 3 enfants. Je suis retraitée depuis plus d'une dizaine d'années. Et maintenant, j'ai une maison. J'ai donc un revenu qui est tout à fait... raisonnablement important. Et par contre, ben, du coup, je donne de l'argent à mes enfants parce que eux, ils ont leur revenu de début de carrière qui est beaucoup plus léger que le mien. Mmh. Voilà.
Merci beaucoup, Isabelle, et c'est un peu la démonstration de ce qu'on est en train de dire, Hakim Alkaroui, cette espèce d'inversion-là, mais en même temps, dont la plupart des gens sont parfaitement conscients, de fait.
Oui, il faut qu'ils soient conscients que ce sont quand même des vases communicants. Mmh. C'est-à-dire que ce qu'on prend pour financer les pensions, on le prend sur le travail, ça crée un coût pour le travail, ça fait baisser les salaires des actifs. Et encore une fois, tout ça n'est qu'une question d'équilibre. Aujourd'hui, l'équilibre, on ne l'a pas. On parle beaucoup de l'engagement des retraités, et on a raison dans les associations. Il ne faut pas oublier que ceux qui travaillent aujourd'hui, demain, ils seront retraités. Et demain, ils vont s'engager dans les associations. Et demain, ils auront des problèmes de financement de la dépendance. Mmh. Et donc, il faut regarder ces sujets-là, encore une fois, sur 30 ou 40 ans, sur 2, voire 3 générations. Et malheureusement, chacun regarde midi à sa porte. C'est normal du point de vue des individus. Par contre, c'est une responsabilité énorme du côté des politiques. Et donc, il faut réussir à prendre un peu de recul. Et quand on prend un peu de recul, il n'y a aucun doute sur le fait que l'équilibre entre les générations, on n'y est pas. C'est normal qu'il y ait de la frustration. Dans l'accès à l'emploi, c'est un énorme problème parce que les salaires sont trop bas. Dans l'accès au logement, parce que le coût du loyer est trop élevé. Et puis en plus, je le redis, tout ça ne va pas tenir. C'est ça qu'il faut vraiment avoir conscience. Les pensions vont baisser, la question c'est quand. Soit on le fait de façon, démocratique et organisée, il faut le faire de façon progressive aujourd'hui, soit ça va se faire brutalement, mais ça va se faire parce que le système est intenable.
Bonsoir, j'ai 76 ans, j'étais instituteur, je pense que ma pension est suffisante, je n'ai rien contre une taxe qui financerait l'éducation ou la santé, taxe qui serait plus élevée pour les plus grosses retraites. Nous avons Bernard qui dit, moi j'ai donné 20 000 euros à ma fille, nous avons Annie qui dit, j'ai 70 ans et depuis des années je trouve qu'il serait normal que les pensions de retraite soient plafonnées. Pourquoi ne pas créer une politique pronatalité, nous dit Simon, aujourd'hui avec 3 enfants, je suis un ovni. Simon qui lui-même a 36 ans, ma grand-mère a passé plus de temps à la retraite qu'au travail. Comment est-ce possible? Enfin, comment est-ce possible? Ça, elle le sait, évidemment. Comment ça peut marcher avec des choses comme ça? Nous avons également un message de Claudie qui dit ceci. Nous, les vieux, on s'est battus pour avoir ce qu'on a, les grèves, les manifs. Et que font les jeunes? Ils vont même pas voter. Alors, les jeunes, bougez-vous. Et l'argent, il faut le prendre là où il est, c'est-à-dire pas dans la poche des vieux. Est-ce qu'on répond à notre amie Claudie
qui a plein de bonnes nouvelles et qu'il faut s'en féliciter. On vit plus longtemps et on vit mieux plus longtemps. Donc tout ça est formidable. Après, il faut en tenir compte dans la répartition des richesses entre les générations. Et on peut prendre de l'argent sur les très riches, ça c'est sûr. Mais il y a un vrai sujet du côté des retraités.
Qu'est-ce qu'il dira, Fabien Neuvy, votre étude de l'Observatoire CTLM dans 10 ans?
Que la dénatalité ne se sera pas redressée, je pense, parce qu'on est sur un phénomène durable et que cette question-là, elle se posera encore avec plus d'acuité, parce qu'effectivement, penser le temps long dans notre pays, ça devient extrêmement compliqué, notamment pour les politiques publiques. On ne voit pas bien plus loin que la prochaine élection, et ça c'est dommage, parce que les enjeux sont cruciaux.
Écoutez, on verra ça très vite, en tout cas, parce que des élections, elles arrivent, c'est maintenant et à vitesse grand V. Merci grandement à tous les deux. Merci à tous pour vos nombreux appels.